Pourquoi est-ce que l'UDC a-t-elle lancé cette initiative, selon vous ?
Il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'elle n'a pas été satisfaite du traitement de l'initiative contre l'immigration massive qui a été acceptée en votation populaire le 9 février 2014 et pour laquelle une loi d'application a été votée au Parlement. Elle n'a pas été attaquée par référendum et cette initiative sur les juges étrangers, au fond, et c'est un de ses objectifs, hein, c'est de s'attaquer au cadre des accords Suisse-Europe. Donc le premier motif, c'était au fond une réponse à la façon dont les autorités ont abordé le résultat de l'initiative du 9 février 2014. La seconde, elle est liée, je dirais, au core business, si on utilisait cette expression, de l'UDC, qui depuis des années cible la question, enfin fait de la souveraineté son champ de bataille principal, et notamment aime cibler le fait que la Suisse soit sous pression ou sous contrainte des juges étrangers qui imposent à la Suisse des décisions. Ce débat, on le connaît depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Il l'utilise souvent aussi vis-à-vis de la démocratie directe. Et au final, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'intitulé de l'initiative, hein, qui est porteur, hein, dont le titre est assez sexy, hein, initiative pour l'autodétermination et pour protéger la démocratie directe, les droits populaires. Tout ça, en réalité, est faux, mais est conforme au cadre politique, au message politique que l'UDC essaie de promouvoir depuis des années.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres partis qui soutiennent cette initiative ?
L'UDC est le seul parti qui soutient cette initiative. D'ailleurs, il est intéressant de constater que sur le matériel de vote ou sur les tout-ménages qui est distribué, l'UDC n'est jamais mentionné. On est habitué à des images chocs, à des visuels assez porteurs. Là, on remarque que l'attitude a été exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en retrait. Le terme UDC apparaît pas dans les tout-ménages, il n'y a pas d'image choc, le titre de l'initiative effectivement suffit. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une unanimité des autres partis, à gauche comme à droite, au centre droit, contre cette initiative, des autorités également. Ça ne veut pas dire pourtant, et selon les sondages actuels, qu'on a un camp du non ou du oui qui l'emporte forcément. Donc la bataille va être serrée, parce qu'encore une fois, lorsqu'on se limite au titre, on a l'impression effectivement que les juges étrangers menacent les droits populaires, alors qu'en réalité, ceux qui sont menacés, c'est les juges suisses, puisqu'effectivement, cette initiative veut donner un pouvoir spécifique aux juges suisses qui serait d'appliquer le droit suisse en violation du droit international.
Et en fonction de ces pouvoirs, quels sont les accords internationaux qui seront menacés par cette initiative ?
Alors, si cette initiative était effectivement acceptée, immédiatement, un des accords qui deviendrait caduque, c'est l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Et c'est donc pas une surprise, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le contexte de cette initiative. Hein. La campagne de l'UDC cible beaucoup l'axe Suisse-Europe. Or, l'initiative vise tous les accords. On a plus de 600 accords économiques avec un ensemble de pays, donc on a un cadre multilatéral qui est très riche, mais leur campagne est vraiment sur l'Europe. Donc le premier accord qui serait touché en cas d'acceptation est celui-là. Pour les autres, il y aurait des renégociations à faire, bien évidemment, et aussi de façon rétroactive. Donc il y a un grand risque d'instabilité institutionnelle et donc d'instabilité économique et politique. La Suisse est un pays d'exportation, c'est d'ailleurs l'argument du Conseil fédéral, en tout cas sous l'angle de l'économie. C'est difficile de continuer à faire de l'économie à exporter contre le cadre de vos accords. Il est affaibli et peut être remis en cause en votation populaire.
D'accord, et dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a d'autres États qui font déjà primer le droit interne sur le droit international en Europe, par exemple ?
Il n'y en a aucun, même si l'UDC mentionne l'Allemagne, car la pratique allemande est tout nuancée. C'est-à-dire que la grande différence entre le cas allemand qui est mis en avant par l'UDC et le projet de l'initiative, c'est qu'au cas où il y aurait une contradiction entre le droit allemand et le droit international, les juges de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe évalueraient la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution automatique. Et c'est au cas par cas. Dans le cadre de ce projet d'initiative, ce qu'on veut, c'est effectivement soumettre l'intégralité, tout type d'accord, quel que soit l'accord, à un référendum facultatif. Donc ça veut dire qu'on est sur une échelle qui est très différente. Et puis, plus généralement, les accords, les relations entre États, les bonnes relations entre États, des fois elles sont un petit peu tendues, mais elles se négocient. Donc, ce qui fait, je crois, la force de la Suisse dans le contexte actuel, si on prend l'exemple des relations Suisse-Europe qui sont difficiles, c'est qu'on est en dialogue permanent. Hein. Même si actuellement on est dans une mauvaise passe, on continue quand même à négocier. Donc le bien fondé d'une communauté internationale qui fonctionne, c'est que les accords, soient les États, soient toujours en dialogue, soient toujours en négociation, et on se dit les choses qui ne vont pas. Cette initiative, là, elle va braquer et créer une tension très forte, puisqu'au fond, elle ne permet plus le dialogue. Hein, puisqu'au fond, elle demande à détricoter et éventuellement à faire voter des accords qui ont été négociés entre la Suisse et ses partenaires.
D'accord, donc là on voit très bien qu'il y a une différence d'échelle et de contexte selon les pays. Mm-hmm. Et dans le cas, si l'initiative devait passer, oui, quelles seraient les conséquences positives, s'il y en a ?
Aucune.
D'accord.
D'un point de vue, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. La Suisse, si elle était acceptée, la Suisse serait affaiblie. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à s'en sortir lorsqu'on est affaibli. Reprenons l'exemple prenons le cadre européen. Lorsque le peuple suisse et les cantons ont refusé l'espace économique européen, il a fallu renégocier. C'est les accords bilatéraux qu'on a actuellement. Donc, même si tout le monde disait que c'était la fin, que la Suisse serait isolée, ça n'a pas été le cas. On a quand même trouvé des solutions. Donc ça, c'est un élément important. Il y a toujours possibilité de dialoguer. La Suisse est un État qui n'est pas au banc des nations. Les partenaires européens savent qu'on a un système de démocratie directe qui crée un élément d'incertitude avec lequel ils doivent aussi composer. Lorsque le peuple suisse a accepté l'interdiction de construction de minarets, c'est sûr que ce n'était pas facile pour notre ministre des Affaires étrangères d'aller continuer à discuter avec nos partenaires turcs ou des États comme l'Allemagne, une forte communauté musulmane. Donc les États savent que la Suisse a cette composante de démocratie directe et que si le peuple vote de cette façon, eh ben, il faut respecter la volonté populaire, ça c'est sûr. Mais ça veut dire qu'il faut ensuite aller renégocier. Donc il y a quand même un affaiblissement. Si vous devez, pour chaque accord, aller renégocier, ça épuise les ressources, ça épuise nos diplomates, l'administration. Et puis, comme État, ça ne vous donne pas beaucoup de marge de manœuvre non plus. Donc, je ne vois aucun effet positif à cette initiative. Donc les effets, c'est quand même un affaiblissement. On peut aussi discuter de l'image de la Suisse, hein, qui, tout en respectant le choix du peuple et la volonté populaire, se retrouve quand même dans une situation où on est, la Suisse et Genève en particulier, dépositaire des conventions de Genève, en matière du droit international et droit humanitaire. Beaucoup d'arbitrages sont faits à Genève. Hein. Genève est la première ville au monde en termes d'arbitrage, par exemple. C'est sûr que si on accepte cette initiative, on sera dans une situation un peu paradoxale où le centre mondial de l'arbitrage et du droit humanitaire est aussi le pays qui désormais peut amener sa population à voter sur l'ensemble de tous les accords que la Suisse pourrait signer avec ses partenaires. Donc je ne vois aucun avantage avec cette initiative.
Et puis selon vous, quelle est la conséquence la plus négative pour la Suisse ? Parce qu'on a brossé plusieurs tableaux, on se disait justement par rapport à l'image qu'elle pourrait avoir par la suite.
Le dégât d'image, si on commence par celui-là, il est très subjectif, bien sûr. Pour ma part, et comme citoyen suisse, j'estime qu'il sera assez important, en travaillant d'autant plus à l'université et dans les relations internationales. Pour moi, ça me touche qu'une initiative comme celle-ci puisse être acceptée, parce que ça donne effectivement l'impression que la Suisse ne veut pas participer, ou avec ses règles à elle, dans le concert des nations. Si vous me permettez de prendre un exemple, imaginez un immeuble avec des locataires, et un des locataires décide finalement d'appliquer ses propres règles pour la gestion de l'immeuble et qui ne respecte pas celles des autres. C'est difficile de vivre avec un voisin qui fait les règles à lui. Donc, je pense que là, il y a un dégât d'image tout relatif, mais qui est finalement subjectif. Le vrai dégât et le risque, on revient, et là, celui-là, il est objectif, c'est la création d'une instabilité institutionnelle qui peut être très négative pour l'économie. Prenez l'exemple du Brexit, qui est très différent de la situation évidemment dans laquelle on du sujet de cette votation, mais on voit bien que la situation du Brexit crée une très grande instabilité actuellement économique au Royaume-Uni. Les récents accords concernant la place financière et bancaire britannique entre l'UE et Theresa May ont montré qu'ils ont réussi à obtenir des garanties, mais cette crainte-là, elle est réelle. Donc cette instabilité institutionnelle amène à une instabilité économique et donc une baisse d'attractivité de la place financière et économique et commerciale suisse.
Pouvez-vous nous expliquer la hiérarchisation des accords internationaux dans le cadre d'un oui ?
Donc on ne peut pas tout détricoter dans le cadre de ces accords, il y a quand même un mais, puisque j'évoquais le cas de l'accord sur la libre circulation sur lequel on a voté, et qui, lui, pourrait devenir effectivement caduc. Donc, si je prends l'exemple de la CEDH, de l'adhésion à la CEDH, par exemple, n'a pas fait l'objet d'une votation populaire en Suisse. Donc, on pourrait imaginer, il serait absurde, qu'on puisse revenir sur l'engagement ou l'adhésion de la Suisse à la Cour, à la Convention européenne des droits humains. Donc, j'ai envie de façon assez paradoxale, jusqu'à présent, les traités qui ont fait l'objet d'une votation ne peuvent pas être soumis à nouveau, sauf qu'il y a un nouveau référendum ou une nouvelle situation qui justifie, s'il y a un accord qui vient compléter et que cet accord est sujet au référendum facultatif ou obligatoire où on peut revoter. Dans le cas de l'acceptation de cette initiative, il y a un peu un élément d'incertitude sur les accords qui pourraient être effectivement soumis au vote. On sait que certains peuvent devenir caducs, celui sur la circulation des personnes. Pour d'autres, j'ai envie de dire, c'est un peu au cas par cas. Donc c'est un peu difficile à vous répondre sur une situation claire, sur un état des lieux des accords qui seraient directement visés. Bon, il y a 600 accords, très honnêtement, je ne les connais pas, pour savoir quelles seraient les clauses et le statut de chacun de ces accords par rapport à l'acceptation de cette initiative.
Vous avez déjà répondu en partie. Quels sont les dangers cachés de l'initiative ?
Bon, c'est bien quand même de le rappeler. Cette initiative, elle est clairement orientée sur le rapport Suisse-Europe. Elle avance masquée. Les juges étrangers, ce sont les juges à la fois de la Cour de justice des communautés européennes, pour laquelle la Suisse n'a rien à faire puisqu'on n'est pas membre de l'Union, mais c'est surtout ceux de la CEDH. C'est eux qui sont fixés. En réalité, c'est vraiment le cadre de nos relations avec l'Europe qui est visé. Donc ça, c'est l'élément. Et l'autre, ça s'inscrit peut-être dans un courant plus large. C'est cette montée des populismes en Europe qui donne à penser qu'en renforçant le pouvoir du peuple et en soutenant l'idée que le peuple doit être consulté tout le temps, une initiative comme celle-ci s'inscrit dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette tendance, et on le voit avec les résultats de votation d'élections dans les pays d'Europe centrale et orientale, récemment aussi au Brésil, où les mouvements populistes ont le vent en poupe. Et je pense que la meilleure façon d'y répondre, c'est justement par le débat démocratique. Je pense qu'une votation comme celle-ci, où vous avez le Conseil fédéral et surtout l'université, notamment l'université de Genève, hein, c'est assez, on a souvent critiqué les universités pour leur manque d'engagement politique, c'était notamment le cas au moment du vote en février 2014, où on ne les a pas entendus. Là, cette fois, on les entend. C'est-à-dire que les universités, elles ont compris qu'il y a un enjeu à se mobiliser.
Et puis, est-ce que, selon vous, il y a des raisons éthiques de combattre cette initiative ? Amnesty International, par exemple, s'est prononcé.
Pour Amnesty, il y a effectivement un enjeu qui est sur celle des valeurs, très clairement. Si la Suisse, si l'initiative était acceptée et qu'elle allait à dénoncer la CEDH, il y a un risque pour la protection des libertés, pour nos libertés individuelles. La CEDH, elle complète... Elle complète ce que propose déjà le droit suisse en matière de protection des libertés individuelles. Et cette protection supplémentaire, on ne l'aurait plus. Donc oui, il y a un risque, que ce soit les questions d'harcèlement, sur les questions de liberté d'expression, sur toute une série de facteurs. Et je pense que les Suisses ne sont pas conscients que dans cet ensemble de droits sur le plan international et national, on est dans des logiques de complémentarité. Bien sûr, les droits nationaux sont déjà suffisamment exhaustifs et complets, mais ce qui est amené par le droit international, c'est justement la gestion de nouvelles situations que, des fois, le droit national ne prévoit pas. Donc, ce sont des protections supplémentaires. Et celles-ci tomberaient. Donc, oui, il y a un risque en cas d'acceptation d'un affaiblissement, cette fois, des droits et de la protection des citoyens suisses. Alors, il y a un autre angle, c'est effectivement le droit international n'est jamais aussi fort lorsque vous avez un certain nombre d'États qui sont membres et parties prenantes des conventions. Plus vous avez d'États, plus la Suisse est un État démocratique. Bon, en général, ceux qui souscrivent à la CEDH sont des États démocratiques, pour une grande partie d'entre eux. Mais c'est vrai que si un État commence à remettre en cause le dispositif du droit international, c'est un affaiblissement, pas seulement des droits pour les Suisses, mais aussi du système international lui-même, puisque des États ou des bons élèves aussi contribuent à la diffusion du droit en dehors des frontières. Lorsque la Suisse aussi se fait condamner pour manquement à ses obligations, c'est tout le droit international qui gagne, et pas que les citoyens suisses. Donc oui, il y a effectivement aussi un risque de dépréciation, je dirais, du droit international, en cas d'acceptation de cette initiative.
Et quels sont les accords multilatéraux auxquels s'attaque indirectement l'UDC ? Donc les accords bilatéraux, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Pour ma part, je n'en vois pas d'autres, vraiment qui soient, visés de façon explicite ou implicite. Les accords bilatéraux avec l'Europe, très clairement, la CEDH aussi, hein, les juges étrangers, c'est vraiment les juges de la CEDH. Et encore une fois, c'est une erreur, puisque le problème, c'est le droit suisse, hein, qui sont les juges suisses qui, tout d'un coup, on va leur dire, désormais, vous devez appliquer le droit suisse en priorité au droit international. Donc, c'est très clairement ces deux axes. Le reste, sur les accords économiques, on peut voir l'OMC, mais je ne l'ai pas vu dans la campagne de façon très explicite. Après, est-ce qu'il y a des accords économiques en particulier ? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je dirais essentiellement, ce sur quoi l'initiative et les initiants se focalisent, ce sont les accords bilatéraux, sachant que la Suisse a 120 accords avec l'Union européenne, hein, mais notamment sur le canevas des récents accords bilatéraux, et puis bien sûr la Cour de justice du Conseil de l'Europe et la CEDH sur laquelle les juges s'appuient.
Est-ce que, à votre sens, on n'est pas trop alarmiste ? Est-ce qu'on n'est pas trop excessif dans nos craintes ?
Alors ça, c'est le prisme d'une campagne. Je pense que chaque argument, chaque camp fourbit des arguments et exagère un tout petit peu. Je crois que ça fait partie du cadre d'une campagne. Maintenant, il y a des incertitudes. Alors, dans un camp et dans le camp des opposants, on va voir plutôt le côté alarmiste. Et dans le camp des partisans, on va évidemment exagérer. C'est effectivement difficile à évaluer encore concrètement, sachant que, comme vous le savez, quand une initiative est acceptée, il faut encore une loi d'application, ça prend encore 2-3 ans, donc c'est pas immédiatement qu'on va subir les conséquences. Alors, c'est vrai que si on prend comme comparaison le cadre de la campagne au moment de l'espace économique européen, On avait dit que si la Suisse n'accepte, si le peuple suisse, et quand on n'accepte pas, c'est la catastrophe. Hein, le conseiller Jean-Pascal Delamura avait parlé d'un dimanche noir au moment du résultat. Alors, la situation n'a pas été catastrophique. Alors, on a une croissance zéro, si on prend juste l'indicateur économique. Hein. Pendant 2 ans, la Suisse a eu une croissance à zéro. C'est quand même assez intéressant et, à mon avis, illustre quand même une dépréciation. On est sur des simulations, c'est difficile de savoir. Objectivement, ce n'est pas un vote qui est favorable à la Suisse. Mmh. Et à son mode de fonctionnement, ça va créer de la complexité, ça va être plus difficile. Et donc, on interprète de cette difficulté aussi un amoindrissement ou une perte en termes de performance de la place économique ou effectivement financière.
Mmh. Parce qu'il y a d'autres nations qui vont dans le même sens.
Alors, il y a une nation, mais alors elle ne passe pas par référendum, mmh. C'est les États-Unis. Mmh. Les États-Unis, mais c'est par leur force et leur puissance économique et politique, eux ne prennent pas de gants. Mmh. Et ce que fait Donald Trump, au fond, c'est en train de s'asseoir sur le droit international. Alors, on a maintenant un contexte, je dirais, plus global, qui est que depuis la montée de la globalisation, il y a une perte de repères. Et qui explique, à mon sens, une grande partie de la montée des populismes. Les gens se sont un peu perdus, d'abord sur leur identité, sur leurs référents. Les frontières ont perdu de leur pertinence. Et donc, il y a un mouvement de vouloir, au fond, se rapproprier les frontières et la montée des souverainismes, des populismes, exactement une réponse à cette incertitude, je dirais, identitaire et au fond géographique. Hein. À un moment donné, on dit tout est ouvert, toutes les frontières sont ouvertes, et pour certains, se sentent un peu insécures. Donc, Trump surfe sur cet mouvement-là. Et à mon sens, c'est, je pense, l'illustration, mais pas du tout démocratique, autoritaire, de dire au fond, je dénonce des accords, le nucléaire avec la Russie, l'OMC, on va peut-être se retirer, et donc il y a actuellement une tension assez forte sur le cadre multilatéral. Et c'est vrai que les grandes arènes multilatérales, ONU, pour l'essentiel, bon, l'Union européenne, mais qui est liée à ces crises internes et à la crise du Brexit ou à la crise dans la zone euro, sont effectivement malmenés. Je pense qu'il y a une adaptation de ce cadre multilatéral. Alors la Suisse et l'initiative de l'UDC finalement s'insèrent aussi dans ce grand mouvement de remise en cause et de réflexion sur les identités, les frontières, les référentiels. Et c'est la raison de plus pour laquelle il ne faut pas céder. Et rappeler que la globalisation, si certes elle menace, le populisme n'est pas une réponse. Et la déconstruction du droit international n'est sûrement pas une réponse, puisque là, si vous faites exploser le cadre, vous n'avez plus rien. Donc, à ma connaissance, à part les États-Unis qui le font de façon très autoritaire, et la Suisse, via cette initiative, sont les deux seuls exemples que je vois. Alors, on peut aussi citer le cas du Brésil, qui veut aussi s'inscrit dans la droite ligne de Trump. On peut évoquer aussi la Hongrie, la Pologne, qui... elles aussi remettent en cause hein, le système Schengen. Donc il y a effectivement un état d'esprit à remettre en cause le cadre multilatéral comme référent dans les relations entre États.
En ce moment, il y a des vagues populistes. Comment répondre à ces vagues-là? Est-ce qu'on peut espérer le retour de la pandémie?
Je pense qu'il y a pour moi, la réponse, c'est par plus de démocratie. Je pense que la seule façon de maintenir, de faire face à ces mouvements populistes, c'est par un débat démocratique de qualité. On remarque que la plupart de ces leaders populistes sont des gens qui viennent des élites, c'est pas des gens qui viennent du peuple. Ils utilisent les frustrations, ils instrumentalisent les frustrations individuelles, personnelles, professionnelles, en faisant croire que la solution est la fermeture, voire un recentrage de l'économie et du pays sur lui-même. Et le travail, je dirais, de la communauté internationale et des États, c'est de démontrer l'inverse. Et je pense que la seule façon, c'est d'aller sur le terrain. Mais c'est pas facile, parce que on le voit en Suisse, l'appellation malheureusement des initiatives n'est pas soumise à un contrôle strict, ce qui fait qu'on peut arriver avec des initiatives comme celle-ci dont le titre est très aguicheur. Mais en réalité, il crée une grande instabilité et il insère une fois encore le discours, il rappelle que le discours du décès est celui quand même de fermeture et pas d'ouverture. Donc je pense que c'est le débat public et il n'y a pas d'autre moyen que d'y répondre. Alors c'est long, c'est un travail, je dirais, de terrain. Je pense qu'il doit être fait. Je pense, à mon sens, ce qui est en train d'être fait en Suisse pour contrer cette initiative me semble être plutôt très positif. En revanche, sur le plan international, l'Union européenne, par exemple, réagit assez mollement aux attaques de Trump contre le cadre multilatéral. Et puis, il y a un enjeu peut-être plus vaste qui est la gouvernance démocratique dans l'Union européenne, dont les repères ne sont pas clairement identifiés.
Vous avez répondu à toutes nos questions, merci.
Alors, merci à vous.